Ah, bientôt 19h33. De la façon dont on est revenu en onde, évidemment, ce soir, l'entrevue avec Marc Bergevin, j'ai pas pris beaucoup de temps pour vous saluer, pour vous demander comment ça s'est passé pour vous le temps des fêtes. Mais ce que j'ai envie de dire rapidement, de toute façon, au jour le jour, on aura l'occasion de se partager des impressions, des sentiments sur ce que nous vivons comme société. Mais j'espère que le sport, la reprise des activités dans le hockey, principalement en ce qui nous concerne, parce qu'il y en avait du sport, mais il y a rien qui nous touche plus que le hockey. Mais j'espère que le hockey va redevenir notre refuge, notre divertissement pour plusieurs, sans oublier la musique et les arts et tout ce à quoi on a accès à travers tout ça. Mais le hockey, c'est quand même quelque chose qui nous rassemble, qui a le potentiel de nous rassembler. Très excité de revenir en ce début d'année, à 2 jours seulement du début d'une nouvelle saison. C'est du jamais vu pour tout le monde. Bien hâte que ça recommence. Au cours des prochaines minutes, Philippe Quentin et Danny Dubé seront avec nous. On va discuter de plusieurs points. On a des petits pépins techniques à brancher, Philippe, mais Danny est là immédiatement. Philippe ne retardera pas. Bien le bonsoir, Danny.
Salut, comment ça va, Marie?
Ça va très, très bien. Toi-même?
Ça va super bien, merci.
Good. Dans un bon état d'esprit. Je pense que ça te fait-tu du bien, toi, de retrouver une espèce de routine, même si ça ne sera pas la même routine qu'une saison normale, Danny? Moi aussi, moi, je suis très content de revenir au boulot aujourd'hui puis d'avoir le privilège de pouvoir le faire, d'ailleurs.
Tout à fait, exactement. C'est le mot que j'avais en tête. Je me considère privilégié de pouvoir faire ça. Premièrement, le métier que je fais, je l'adore. Puis, j'étais un passionné de hockey, puis ça a recommencé à jouer. Alors, moi, je suis aux oiseaux. Hein.
Bien, on est deux, possiblement trois. Philippe, bonsoir officiellement. On s'est salué dans les corridors.
Salut Mario, salut Danny.
Salut Philippe.
Qu'est-ce que ça représente pour toi, Philippe, au plan personnel? Puis c'est sûr qu'au plan professionnel, on comprend les implications pour nous tous, mais au plan personnel, de retrouver un espèce de divertissement refuge là, pour nous ici au Québec, pour le Canada.
Ben, je pense qu'on n'a jamais été aussi conscient de l'importance du hockey dans nos vies. Hein. Quand on en est privé, quand on n'a pas le modèle traditionnel du début de saison en octobre, puis des séries de la Coupe Stanley à partir du mois d'avril, tu sais, c'est pas la même chose. Puis on carbure au hockey au Québec. Tout le monde, en fait, la grande majorité de la population aime ça. Le Canadien, c'est rassembleur. Quand l'équipe va bien, ça permet d'unifier tout le monde, peu importe nos croyances dans n'importe quel secteur. Alors, c'est important, le hockey, c'est important dans notre société. Et je pense qu'à l'heure actuelle, là, en contexte de pandémie, c'est encore plus essentiel.
Et même que de poser une simple question comme, par exemple, trouvez-vous qu'il y a trop d'enthousiasme autour des pronostics qu'on entend autour du Canadien? C'est un débat que je vais savourer davantage que tous les débats qui font rage actuellement sur notre planète autour des autres questions que je vous épargne.
J'ai même hâte de te donner mon avis là-dessus.
Ah ouais, vas-y mon Philippe. Ben, je trouve... Danny, je ne sais pas si t'es comme moi, on va l'écouter, non, mais j'ai une petite idée de ce qui s'en va. À toi, Philippe.
Non, ben, je trouve ça un petit peu excessif à l'heure actuelle. T'sais, je comprends que l'équipe s'est améliorée, mais il y a encore beaucoup de points certains. D'abord, c'est un club qui n'a pas joué encore ensemble. Beaucoup de nouveaux éléments. C'est long, souvent, trouver de la cohésion au sein d'une équipe, et ça, le Canadien, je pense, en est pas là. J'entendais Mario Tremblay tantôt qui disait, bon, Toronto, il y a des réserve avec Toronto parce que Toronto n'a pas appris à gagner. Ben, si Toronto n'a pas appris à gagner, le Canadien n'a pas encore appris à gagner non plus. Là, l'équipe n'a pas gagné une seule ronde éliminatoire depuis 2015. Depuis 2015, c'est quand même quelque chose. Alors, il faut apprendre à gagner aussi chez le Canadien. C'est pas fait. Puis, tu sais, bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de positifs, puis je vais compléter là-dessus, mais tu sais, j'entends au camp d'entraînement, Romanov, c'est presque un ticket pour le temps de la renommée. Kéké, ça shot. On n'a jamais rien vu de tel. Josh Anderson qui a marqué quoi? 4 buts l'an dernier. C'est un train qui file à 300 à l'heure. L'équipe n'est pas arrêtable. Attendons de jouer quelques matchs, puis on verra.
Danny, on n'est pas déçus, Philippe, quand même, là, de ta prise de position initiale, Danny.
Non, écoute.
Tu vas te faire le contrepoids? Je suis curieux de t'entendre.
Ben, en fait, je vais commencer en disant ceci. L'état des lieux, là, c'est sûr que le Canadien de Montréal, c'est une bien meilleure formation que celle de l'an passé et celle des dernières années. Quelques points de repère. Rappelons-nous que Victor Mété a déjà été à gauche de chez Weber.
Oui, monsieur.
Il n'y a pas si longtemps, on disait que c'était l'avenir du Canadien. Il va être 7e défenseur cette année. Mm-hmm. Ensuite, Paul Byron et Arturi Lehkonen ont été saupoudrés entre la 2e et la 3e ligne au cours des 4 dernières années. Ils vont jouer sur le 4e trio cette année. Alors, moi, je veux bien... Et c'est sûr qu'il n'y a pas de match de jouer, mais il y a quand même des effectifs qui nous montrent qu'il va y avoir de la profondeur dans cette organisation, qu'il va y avoir de la compétition à l'interne. Mais il y a un élément que personne lequel personne ne peut statuer maintenant, c'est est-ce qu'ils formeront une équipe? T'sais, on les voit à l'entraînement, okay, etc. Est-ce qu'ils formeront une équipe? Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais trop rien. De l'extérieur, parce que là, c'est un des éléments qui nous empêche d'avoir une perspective plus juste, c'est qu'on est à l'extérieur de l'équipe. On est loin de l'équipe. Pour nous, moi, avant, c'était un élément pour moi qui était extrêmement important sur lequel je pouvais me prononcer.
On n'a pas de référence, mais absolument aurais-tu envie de penser à distance, à travers les plexiglas, que oui, ça va faire une équipe? Ou t'es...
En fait, c'est que oui, ça va faire une équipe. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Il y a quand même des joueurs sur qui le Canadien va compter cette année qui doivent produire. Bon, tout à l'heure, on parlait de Kotkaniemi, c'en est certainement un. Écoute, là, les nouveaux venus à l'entraînement dans les matchs inter-équipes, c'est sûr que c'est plus facile de briller que lors des matchs. Mais quand même, on force est d'admettre que c'est une... Écoute, c'est une équipe qui a de la profondeur et il faut que Drouin ait une bonne saison, il faut que Suzuki continue de progresser. Bon, on peut les nommer, là. Et juste peut-être pour terminer, je vais garder la cerise sur le Sunday. Je donnerai pas une place au temple de la renommée à Romanov, mais je peux garantir à Philippe que l'enthousiasme que les collègues démontrent, c'est justifié. C'est un joueur qui est très spécial. C'est un travailleur acharné. C'est un gars qui est premier sur la glace, comme les recrues doivent l'être. Il sort à la fin des entraînements, quand il ne reste plus personne sur la glace. Il fait de l'extra. On entend qu'il est très à ses affaires aussi au gym. C'est un gars qui est mature. Alors, moi, je pense que lui, très rapidement, parce que on est tous d'accord qu'Edmundson, jusqu'à maintenant, ça a été un mi-figue, mi-raisin dans le cas d'entraînement. Si ça continue comme ça, ce ne sera pas long que les entraîneurs vont être tentés de donner une chance à Romanov en lui donnant un petit peu plus de temps de glace.
Dans la hiérarchie, selon toi?
Exactement. Seulement, par contre, si les premiers matchs et les résultats de l'équipe sont concluants.
Mais ça fait du bien d'entendre ça. Puis d'ailleurs, j'en ai parlé avec Marc Bergevin, puis je ne sais pas quelles attentes vous avez à l'extérieur, mais en tout cas, à l'intérieur aussi, il semble en avoir beaucoup. Ça fait du bien parce que ça tranche, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir dont on a pu, au sujet desquels on a pu s'emballer, disons, dans les 15 dernières années. Il y en a eu ici et là, mais disons que c'est un phénomène rare. Alors, est-ce que ça te rassure d'entendre ça, Philippe, de la bouche?
Oui, ben, tout à fait. Non, mais pour Romanov, je suis convaincu que c'est un bon joueur. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais je trouve que il n'a pas joué encore un match dans la Ligue nationale. Laissons-lui le temps d'apprivoiser ce circuit-là. On sait combien c'est difficile. Même les meilleurs, c'est pas évident. Il y en a que ça va aller plus vite, mais il y en a beaucoup. C'est un peu plus long, puis c'est normal. C'est une adaptation qui est majeure, puis je pense que cette année, ça va être encore plus difficile dans le contexte de la pandémie. Mais moi, je dirais la principale différence chez le Canadien. Il y a toutes les différences sur la glace, sur la patinoire, puis Danny vient d'en faire l'énumération là, avec beaucoup d'à-propos, et j'en suis, là, c'est certainement des changements, il y a plus de profondeur et tout. Mais je pense que c'est l'attitude qui est franchement différente. J'écoutais ton entrevue, Mario, avec Marc Bergevin, tu sais, qui a confirmé que les attentes sont élevées. Là, il a dit deux, trois fois « we mean business », une expression qui veut dire « hey, on a de l'ambition cette année ». Et ça, c'est un changement, c'est le Canadien. Je me souviens pas d'avoir vu ça dans les dernières années. On était généralement dans un mode extrêmement défensif. Ben, on vise les séries, puis là, après ça, on se croisait deux doigts, puis on disait... Puis en série, ben avec Carey, tout est possible. Ben, tu sais, on a appris au fil du temps que non, avec Carey, tout n'est pas possible en série. Ça prend toute une équipe pour gagner. Un bon gardien aide, évidemment, mais c'est pas suffisant. Un gardien ne te fera pas gagner seul. On l'a encore vu l'an dernier en éliminatoire contre les Flyers de Philadelphie. Donc, ça, c'est un changement. Tu sais, on a été trop habitués au cours des dernières années à « Ah, c'est donc difficile de réaliser une transaction. Ah, c'est donc difficile de gérer le plafond salarial. Ah oui, mais écoutez, on n'est pas la seule équipe qui a des ennuis. Il y en a d'autres, des bonnes, qui ont aussi des ennuis. » Tu sais, c'était tout le temps le nivellement par le bas ou la grosse difficulté. Là, pour la première fois, je sens que le discours a changé de la part de Marc Bergevin. J'ignore ce qui a provoqué ça. Est-ce que c'est Jeff Molson qui lui en a parlé? Est-ce que lui-même est conscient que, bon, il arrive à l'expiration de son deuxième contrat puis ça prend des résultats s'il veut en avoir un nouveau? Je ne sais pas c'est quoi la raison. Il y a certainement l'arrivée des nouveaux joueurs aussi, mais il en reste pas moins que ça, c'est un changement d'attitude. Et quand ça part de haut, quand la confiance est élevée dans le haut de la hiérarchie, ça a pas mal plus de chances que de descendre, que quand les employés rentrent au bureau tous les matins, puis tout ce qu'entendent leur patron, c'est de dire « Mon Dieu, que c'est difficile ». Alors ça, c'est un changement majeur chez le Canadien, et ça, j'applaudis.
Et c'est un discours rafraîchissant aussi, là, parce que comme tu le dis, disons qu'on ne l'a pas entendu trop souvent dans les dernières années, puis même Marc Bergevin, en fin d'entrevue, a quand même dit sans mettre un bémol sur les propos de Claude Julien, quand je dis « Là, cette année, faut-tu faire les séries ou on essaie de faire les séries, puis on verra ». Il dit « Nous, à l'interne, tu sais, en voulant dire, on va pas le crier sur tous les toits, mais on a des attentes élevées ». Il n'en reste pas moins que, Danny et Philippe, normalement, un calendrier de 82 matchs te permet de faire des expériences en début de saison. Et là, tu as un calendrier de 56 matchs compressés. On ne sait pas comment ça va virer. Peut-être qu'il y aura des matchs remis, mais peu importe. Donc, je reviens juste à l'effectif. Je vois pas de talon d'Achille. C'est une équipe qui a l'air équilibrée, mais j'ai quand même un drapeau, disons, jaune-blanc là, par rapport à la position à la ligne de centre. En ce sens que c'est correct qu'on donne le poste de centre numéro 4 à Jake Evans, mais l'échantillon est quand même mince au niveau de la Ligue nationale. 13 matchs de saison régulière, 6 matchs de série dans lesquels il joue, une fois il a joué 11 minutes, sinon 4 minutes 57, puis des matchs à 7-8 minutes. Et Nate Thompson, qui, bon, physiquement, c'est sûr qu'il était moins rapide, peut-être moins bon en poursuite de rondelles, mais dans la mise en jeu, 55,1. Il a gagné 404 mises en jeu sur 733. Je veux dire, là, tu vas avoir Dano, Suzuki, Kotkaniemi, Evans. Combien de temps, je dis, Danny, on a combien de temps pour mesurer l'efficacité de cette ligne de centre-là, mais surtout en commençant par le dernier, parce que le centre de ta carte, c'est un centre important pareil.
C'est un centre important, certain. Mais moi, hier, écoute, j'en ai fait état, j'ai eu l'occasion de faire le match, puis j'en ai parlé avec Pierrot dans la première période, parce qu'on faisait le match à RDS 2, puis moi, écoute, il m'a impressionné, Jake Evans, depuis le début du camp d'entraînement. Je trouve qu'il, premièrement, il a pris de la puissance, il est beaucoup plus assuré, je trouve qu'il joue avec beaucoup plus de confiance, ça paraît dans son jeu, il fait pas juste tenir le temps, là. Tu sais, un jeune joueur qui veut pas faire d'erreur, il fait juste tenir le temps, la rondelle, il essaie toujours de l'envoyer dans le fond de la zone, juste à la quatrième ligne.
Le tournoi lui a donné des ailes, Danny, puis il a retourné s'entraîner entre les deux. Puis là,
absolument, écoute, pour répondre plus spécifiquement à ta question, ça va prendre combien de temps? Mais ça va prendre 2 semaines. Dans 2 semaines, on va savoir s'il est capable de tenir la route. Je te dirai pas qu'on va avoir un portrait global, je te dirai pas ça, mais on va savoir s'il est capable de tenir la route, parce que le Canadien commence avec 6 matchs à l'étranger. Mm-hmm. Puis l'entraîneur n'a pas le dernier changement. Ça fait que c'est quoi qui se passe dans ce temps-là? Je veux dire, veux pas, t'es désavantagé. Là. C'est l'adversaire qui décide qui va envoyer contre Jake Evans.
Oui, effectivement. Et ça, j'ai hâte de le voir parce que l'échantillon est très, très mince, même si c'est prometteur, puis des vrais matchs. Puis c'est sûr qu'une mise en jeu, des fois, il y a la mise en jeu, puis il y a la bataille autour des joueurs de centre pour la possession de la rondelle. Des fois, c'est plus complexe que les simples statistiques. On va s'arrêter de temps de quelques messages. On revient avec Philippe et Danny tout de suite après la pause que voici. On discute de la prochaine saison du Canadien qui s'amorce sur nos ondes ce mercredi. Un gros merci d'être là, où que vous soyez, partout au Québec et bien au-delà, via les ondes, via le web. On est très heureux d'être là pour vous accompagner pour une autre saison de hockey qui commence dans 2 jours. Canadiens à Toronto, beaucoup de réactions sur la messagerie texte à l'entrevue que Marc Bergevin nous donnait au propos de Danny et Philippe également. Il y en a, je veux juste répondre avant de relancer la discussion, quelqu'un qui nous demande pourquoi Corey Perry était une sorte de grand frère rempli de tellement de superbes expériences il y a 6 jours et qu'il est soumis au ballottage. Ben, Marc Bergevin nous le dit dans l'entrevue. Corey Perry et Frolic étaient avisés d'avance. Le club était à peu près fait sur papier. Les gars, si vous avez une objection, gênez-vous pas, Danny et Philippe. Puis on leur a dit que c'était ça. Puis tu sais pas combien de blessés, combien de cas de COVID tu vas avoir. Ces gars-là vont jouer éventuellement. Donc voilà pour la réponse. Gênez-vous pas d'intervenir. Ryan Poehling est-il... pensez-vous que Ryan Poehling... Philippe, je sais pas si tu as pu voir des matchs intra-équipe parce qu'on était en vacances, fait que je veux pas non plus te mettre dans une situation...
Okay, j'ai vu des extraits.
OK, ben d'abord, peut-être Danny avant, puis ça va nous donner des cartouches un peu. Est-ce que Ryan Poehling, tu le sens bien loin de Jake Evans? Sens-tu que...
Bien loin.
Bien loin, oui.
Bien loin. Je prends la peine de peser
d'insister
sur le B.
Oui.
Bien loin. Okay. Malheureusement, là, écoute...
Marc Bergevin disait qu'il était pas loin. Dans l'entrevue, mais c'est
ben, c'est correct. Écoute, c'est normal qu'il... C'est un choix important pour le Canadien. On va le protéger. Moi, écoute, Poehling, là, il faut... Moi, j'ai toujours... Ma perception des choses, c'est celle-ci. Je m'assois, je regarde. Il faut que le joueur me saute aux yeux. Quand je me mets à chercher le joueur, c'est pas bon signe.
C'est un bon point.
Alors, il vous le dit, là... À 2-3 reprises dans les matchs, je veux dire, il touche à la rondelle, il n'arrive rien. La rondelle est toujours loin de lui. Il n'est pas dans l'action. Quand il est dans l'action, ça se finit pas. Les jeux se complètent pas. On l'a quand même jouer avec Perry et Frolic. Tu sais, je veux dire, il ne jouait pas avec des piétilleries. Là. On l'a placé dans un contexte pour qu'il puisse bien paraître. Il n'a pas ressorti. Je dis pas qu'il travaille pas, je dis pas qu'il n'a pas une bonne attitude. Je dis simplement que lui, là, il n'a pas trouvé sa game. Il n'est pas encore dans sa zone. Je pense que c'est un jeune homme qui se cherche au niveau identitaire de joueur de hockey. Là. Sur le plan personnel, je le connais pas. Son rôle, qu'est-ce qu'il peut amener à l'équipe et comment il doit jouer? Je pense qu'il y a une dualité entre ce qu'il faisait dans les rangs collégiaux, ce qu'il a fait depuis de son arrivée chez les pros. Je pense qu'il y a comme une, tu sais là, ça fonctionne pas là. Il manque un chaînon à quelque part. Là. Il faut qu'il trouve le fil conducteur. Il l'a pas trouvé encore. Ça c'est très humblement parce que je connais pas beaucoup le gars, mais de l'extérieur, il y a l'air d'un gars qui cherche. Pour moi.
Dans vos commentaires, Philippe et Danny, j'ai senti une préoccupation sur la chimie, beaucoup de nouveaux visages. Vous l'avez senti dans mes questions à Marc Bergevin. J'y ai posé des questions là-dessus. Il dit, bon, mais tout le monde est dans le même bain. Pas toutes les équipes qui ont autant de changements. Jusqu'à quel point Claude Julien, c'est stimulant pour lui, Philippe, là, parce qu'il y a plus d'outils que par les années précédentes. Il a même osé dire, je vois pas pourquoi qu'on viserait pas le top. À quel genre, comment vas-tu observer le travail de Claude Julien comme meneur d'hommes cette année?
C'est une année très importante pour lui parce que là, il faut que le Canadien connaisse du succès. Ça fait plusieurs années là, que le Canadien nous laisse sur notre faim. Puis je pense que laisse sur le faim non seulement les amateurs, mais la haute direction de l'équipe aussi. Je pense aux actionnaires, puis aux propriétaires, puis tout ça. Ça prend une meilleure équipe. Ça prend une équipe qui a plus de résultats. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de pression sur Claude Julien. Beaucoup de pression, dans une moindre mesure, par exemple, sur Marc Bergevin, parce qu'on sait que le directeur général, c'est pas lui qui paie en premier. Là. Si le Canadien n'a pas un bon début de saison, c'est pas le directeur général qui paye. C'est l'entraîneur. C'est comme ça dans tous les sports. Le Canadien n'est pas une exception. C'est la marque de commerce du sport professionnel. Mais tu sais, tantôt, Danny le mentionnait, 6 matchs à l'étranger, hein, Danny, pour le début de
en
saison.
Partant, oui.
Bon,
oui.
Dans une saison de 56 matchs, là, c'est énorme.
Manque pas ton coup en partant.
Parce que si jamais là, ça partait mal puis que ça partait difficile, souvenons-nous de l'année dans une saison de 82 matchs où le Canadien là, avait gagné quoi? Une victoire dans les 10-11 premiers matchs? Là, c'était 2017-2018, quelque chose comme ça. Non,
t'en arraches le reste d'année.
Ouais, puis t'en arraches. Puis c'est ça, t'es tout le temps en train de jouer du hockey de rattrapage. Voilà. Alors là, ça va être le gros défi pour Claude Julien, et défi d'autant plus grand que Danny l'a mentionné, j'en ai parlé aussi, que l'équipe n'est pas encore formée, n'est pas encore tissée. Puis tu sais, les matchs pré-saison, on est tous d'accord, il y en a trop à chaque année. Mais s'il y a une année où le Canadien aurait peut-être eu besoin de 2-3 matchs pré-saison contre des vraies équipes de la Ligue nationale, c'est probablement cette année. Mais il n'y en a pas, alors donc défi supplémentaire.
Et d'ailleurs, il y a de l'espoir partout, il n'y a pas un match de jouer, Danny, mais... Le ton rassurant qu'on entend chez tout le monde qui puis c'est correct, qui pense que ça va bien aller, ça peut changer vite, là. Hein?
Moi, la seule chose qui me. En fait, ce qui me réconforte, c'est l'enthousiasme des vieux de la vieille, les joueurs clés. Les Price, les Weber et compagnie. Tu vois, ces gars-là, ils sont excités. Là, ils regardent autour d'eux autres, ils voient les joueurs arriver, puis ils se disent, hey, on a vraiment une bonne équipe. Maintenant. Une des choses qui va militer en faveur de l'entraîneur, c'est que comme c'est un calendrier compressé et que tu n'as pas beaucoup de temps pour faire de la maintenance, ça va être adressé ça, aux joueurs. Il va y avoir un message très, très clair qui va dire aux joueurs, on est comme dans un tournoi.
We mean là, business, comme Claude disait tantôt.
Puis là, c'est... La seule façon de réussir cette année, c'est qu'on se soutienne mutuellement. Écoutez, là, ça va être très rare, un match, puis après ça, on rencontre un adversaire différent. C'est toujours des séquences de matchs, des deux matchs contre la même équipe, trois contre la même équipe. Donc, c'est un peu comme une situation de série d'après-saison. Et ça va amener un niveau d'intensité qui va faire que c'est la meilleure équipe qui va gagner ces matchs-là. Il y a des soirs, là, tu joues, mais t'es un meilleur joueur. Tu joues pas si bien que ça, mais t'as les meilleurs joueurs, puis tes meilleurs joueurs te sauvent peut-être une dizaine de matchs dans l'année, que ce soit ton gardien, ton avantage numérique, etc. Ça, au total, tu vas aller ramasser peut-être une dizaine de matchs au total. C'est sur les épaules de tes joueurs clés. Ça représente quand même 20 points. Là, dans ce contexte-ci, ça va être très difficile pour les joueurs clés, comme un Gallagher, par exemple, de faire la différence trois soirs de suite contre Vancouver.
Il va être content de pas être seul cette année, parce que là, il va avoir un peu plus d'aide. Là, hein?
Exactement. Et le sens commun d'une équipe va faire la différence dans ce genre de confrontation-là. L'équipe qui va être la meilleure équipe-équipe, là, celle qui va former l'équipe la plus unie, va avoir plus de succès que les autres.
Ben, on aurait tendance à être d'accord avec ça, parce que quand une équipe gagne, c'est ça qu'ils disent, Philippe, après la victoire. On était comme des frères. T'sais, regarde, n'importe quel championnat, tout sport confondu, les champions disent toujours les mêmes choses, ou à peu près, hein?
Oui, le succès entraîne le succès, hein, c'est sûr. Puis quand t'es dans la spirale inverse, là, on l'a vu l'an dernier avec les séries de revers du Canadien, là, tout à coup, est-ce que le Canadien méritait de perdre 8 matchs en ligne? Peut-être pas, mais on dirait que quand ça va mal, ça va mal. Et quand, tu sais, en anglais, il y a une expression, là, quand il pleut, ben c'est l'orage. Tu sais, c'est un peu ça qui arrive quand les choses vont mal. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec Danny sur le concept d'équipe. Puis, tu sais, c'est, au fond, ce que dit Danny, c'est pas nécessairement le talent des joueurs. Là. Le talent est important, mais c'est l'unité, c'est le fait que les gars veulent se tenir ensemble. Mais à ça, j'ajouterais un élément hockey qui, moi, m'apparaît assez fondamental. Puis je pense encore que peut-être la principale acquisition pour le Canadien cette année, c'est Jake Allen. Parce que Carey Price ne pourra pas garder autant de matchs consécutifs. Ça prend un bon second. Mm-hmm. On l'a vu, Danny, tu en as parlé. On se connaît depuis je ne sais pas combien d'années. Puis il n'y a pas une année où tu ne m'en as pas parlé du gardien réserviste. Oui. Et là, pour la première fois, il y a une réponse adéquate. Et ça, je pense que ça peut vraiment donner tout un coup de main au Canadien.
On va aller à la pause, les gars, puis on se réserve un dernier bloc de discussion. Mais juste avant d'y aller, j'ai tenté d'avoir M. Correct, là, qui n'a pas voulu dévoiler publiquement. Ils ont un plan du nombre de matchs qu'ils veulent donner à Carey Price, puis il y a bien des choses qui peuvent influencer la donne. Mais quel chiffre mettriez là-dessus, vous autres, le nombre de matchs pour Carey Price sur 56, les gars?
Bon, moi, je dirais le quart, à peu près.
Il y a sept fois deux matchs en deux soirs cette année dans l'année. Pour le reste, ben, il y a des fois, il y a des séquences de 9 en 16, 9 en 15, 16. Mais tu disais, excuse, Phil?
Ben, une quinzaine de matchs, à peu près.
Une quinzaine de matchs à Jake Allen?
Oui.
Puis toi, Danny?
Oui, c'est ça. Moi, 38 et 40 matchs pour Carey Price.
Quand même. OK, j'aurais pensé que... Mais on verra comment ça va aller cette saison.
T'en aurais mis plus, moins ou...
Oui, moins. Mais peut-être que... Mais c'est des résultats qui vont faire foi de
Après la pause, si tu veux, là. Oui. Parler de l'impact de faire jouer moins Carey Price, si c'est en dessous d'une certaine limite.
Je suis curieux de t'entendre, puis on va le faire. On va s'arrêter tout de suite. Guy Simard vient nous voir avec les nouvelles également. Écoutez bien ça, d'ailleurs, il y en a une popée. Et on vient pour la prochaine tranche de notre discussion. Stéphane White sera là également avec nous au cours de la prochaine heure pour nous parler d'un ancien gardien avec lequel il a travaillé ardemment, avec qui il a gagné, Corey Crawford. Au cours des prochaines minutes, Stéphane White, entraîneur des gardiens du Canadien, viendra nous parler d'un ancien gardien avec qui il a travaillé ardemment, c'est-à-dire Corey Crawford, qui a annoncé sa retraite en fin de semaine. Nous parlerons de football également. D'ailleurs, il y a un match, pour ça, j'essaie de changer les postes pour le match de football universitaire championnat américain ce soir. Et là, je ne sais pas si, comme moi, vous avez été un peu, déboussolé par la dernière nouvelle du bulletin de Guy Simard, mais reprenons la discussion avec Danny Dubé et Philippe Quentin. Rebonsoir, les gars.
Bonsoir.
Il n'y a pas grand monde qui se promène avec des lestes et des bipèdes dans vos quartiers?
Non, pas vraiment, non.
Non, OK, alors ça.
En tout cas, il faut encore.
Que dire de plus? Alors, on parlait des gardiens de but. Pourquoi c'est important que Carey Price, il l'a dit dans le commentaire, on sent, quand il a commenté l'arrivée de Jake Allen, puis quand il est arrivé au camp, on lui a reparlé du duo, c'est comme si on l'avait convaincu qu'il était meilleur quand on l'économisait un peu. Je ne suis pas sûr que c'est ça qu'il croyait au préalable. Et pourquoi qu'il faut... Il demeure un numéro un, même où, dans un système où on va privilégier plus de présence pour Jake Allen.
C'est là.
Quand je dis demeure un numéro un, là, il
est. Je
contestais pas ça, là, tu comprends.
Non, mais si tu veux avoir une performance optimale.
Oui.
Écoute, Pierre Allard du Canadien travaille là-dessus sur les volumes de charge, de travail. Et de plus en plus d'études qui disent qu'un athlète professionnel. Il a besoin d'un certain niveau de fatigue pour être efficace. S'il est trop reposé, il est moins performant. Il y a une zone.
J'aime ça.
Il doit se tenir dans une certaine zone. Si tu le sors de cette zone-là, ça devient contre-productif. Tu t'imagines, je vais lui rendre service. Non, tu le déstabilises. Alors, il y a une ligne qui t'amène dans une zone de danger. Où là, tu es surchargé, donc c'est là que les blessures arrivent, c'est là que tu as une perte d'attention, tu as de la difficulté, ton hydratation, ta récupération, toutes ces affaires-là, ça entre en ligne de compte. Et à l'inverse, tu as d'autres types de problèmes reliés au fait que Tu sais, l'expression, ah, il me semble que je ne suis pas aiguisé, je ne suis pas sharp. T'sais? C'est comme la personne qui revient de vacances qui dit, mon Dieu, ça m'a pris comme 2-3 jours avant de retourner dans mes affaires. Bon, et c'est sûr que c'est pas pareil, là, mais c'est un peu
les...
l'idée. Donc, chaque joueur, un joueur vedette, doit jouer un certain nombre de matchs et dans ces matchs-là, si c'est un attaquant ou un défenseur, doit jouer un certain nombre de minutes. Bon, en moyenne, les gars comme Petrie puis Weber jouent 24 minutes par match. Si tu descends en bas de 20 minutes, je te le dis, ils vont te regarder, ils vont te dire c'est quoi le problème, y a-t-il quelque chose qui va pas, y a-t-il quelque chose que je fais pas correct? Parce qu'eux autres, ils sont habitués de jouer 22 minutes, 23 minutes. Ça, c'est correct. Un soir, ils vont jouer 28 minutes, mais leur zone, c'est 22, 23, 24 minutes. Donc, les entraîneurs savent ça. Et quand un joueur arrive au sein d'une organisation ou au moment où on développe le joueur, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes à jauger et à cibler, puis ensuite à identifier, une fois que c'est identifié, de le stabiliser pour que le joueur il prenne son envol. Ça prend un certain temps, mais une fois que c'est établi, ben on travaille avec ça jusqu'au moment où on gère la décroissance, comme dans le cas de Jake Allen, qui lui va accepter de jouer moins de matchs parce qu'il est conscient qu'en jouant moins, il va être meilleur.
Mm-hmm. Philippe, as-tu envie de renchérir sur cet aspect-là précisément?
Ben non, je suis pleinement d'accord avec avec ça. Et puis c'est ça. Mais Price, pour moi, ça va lui prendre une adaptation. Puis il l'a dit d'ailleurs, hein, qu'il va falloir qu'il s'adapte à jouer moins, parce qu'il est habitué de jouer beaucoup, de jouer un très, très grand nombre de matchs. Maintenant, il faut qu'il réalise qu'il vieillit. Mm-hmm. Et non seulement ça, c'est que le calendrier va être très exigeant cette année, beaucoup de matchs, là, deux matchs en deux soirs, etc. Alors lui-même, il va falloir qu'il s'adapte à ça, à s'adapter à jouer un moins grand nombre de matchs de façon à être performant en séries éliminatoires. Et on l'a vu l'an dernier, il a connu d'excellentes séries. Il a été très bon dans la série initiale là, contre Pittsburgh. Puis il était pleinement reposé. Et finalement, il était peut-être trop reposé pour reprendre la théorie de Danny, mais c'était le cas de tout le monde. Là, personne n'avait joué auparavant. Mais il reste pas moins qu'il était reposé puis il était plus efficace.
Mmh. Philippe, ouais. Penses-tu que ça va être plus facile pour le Canadien de se classer en série dans la division canadienne que ça l'aurait été dans le contexte des divisions normales dans la conférence de l'Est?
Je sais qu'il y a beaucoup de gens, Mario, qui pensent ça, puis moi, je suis pas d'accord. Je pense pas que ça va être plus difficile. Je pense que peu importe la division, se qualifier pour les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, aujourd'hui, c'est très difficile. Je trouve qu'aujourd'hui, j'entends là, des gens faire des analyses, puis c'est comme si toutes les équipes canadiennes, c'était vraiment des équipes qui étaient très ordinaires, puis que le Canadien allait survoler tout ça avec tout son groupe de nouveaux joueurs. Et un instant, le Toronto demeure. Oui, OK, ils n'ont pas rempli toutes les promesses au cours des dernières années, mais ça demeure un sapré bon club de hockey. Edmonton, c'est un sapré bon club de hockey. Vancouver, c'est un club qui est sur la montée. Calgary est certainement pas méchant. Winnipeg, oui, il y a un joueur vedette qui est malheureux, mais ils ont un excellent gardien de but. Ils ont une équipe assez lourde. Ils ont de très bons joueurs aussi. Tu sais, ça va être dur, là. C'est pas vrai que le Canadien va finir 10 points en avant de tout ce monde-là. Ça aurait été difficile dans la division traditionnelle, mais moi, je pense que ça va être tout aussi difficile dans la division canadienne.
Même question, Danny. Comment tu vois ça?
Ben, écoute, moi, je suis d'accord avec Philippe sur le fait que ça va être très difficile. Là, mais le Canadien représente une des bonnes équipes dans cette division-là. La seule chose qui me titille un peu, c'est que les résultats dans les voyages dans l'Ouest, ça n'a jamais été une histoire de succès là, pour le Canadien.
Ben, l'an passé, ça a bien été, par contre.
L'an passé, ça a bien été.
C'est quand il revenait à la maison qu'il se faisait battre. Parce que j'ai recensé tous les matchs. Je ne voulais pas te couper, mais puisque tu le dis...
Non, vas-y, je t'en prie.
L'affiche hier, dimanche avant de revenir en onde, on sort ben avant ça, mais on s'est replongé dedans. 10 victoires l'an passé contre les équipes canadiennes. 4 fois en prolongation de ces 10 victoires-là, comme quoi c'est des matchs serrés très souvent. 5 défaites, dont 2 en prolongation. Donc, 22 points sur un total de 30. Mais ils ont gagné sur la route, par exemple, à Vancouver. Ils ont gagné 3-1 à Vancouver. Ils ont gagné 4-3 en prolongation à Calgary. Ouais. Par contre, ils sont revenus perdre contre ces mêmes équipes-là à domicile par la suite, plus tard dans la saison. Alors, mais reste que, somme toute, 22 points sur 30, ça a été une très bonne année l'an passé. Bon, je voulais juste insérer ça dans
ton affaire. Non, tu fais bien de le dire, parce que mais de façon générale, moi, je trouvais que, de façon générale, le Canadien a toujours bien joué à Winnipeg. Mm-hmm. Toujours. Durant le voyage dans l'Ouest, ça a toujours été assez difficile de revenir avec une fiche gagnante, de façon générale. Là, moi, je parle de peut-être les 5-6 dernières années.
Ils ont gagné 6-2 à Winnipeg l'an passé.
Mais c'est ça. Mais à Winnipeg, pour une raison que j'ignore, moi, l'équipe que je pense qu'il va décevoir, c'est Winnipeg dans cette division-là. Parce que Winnipeg n'est pas assez lourd à la défense. Ils ont vraiment pas été en mesure de pallier au départ de leur brigade défensive. Là. Ils ont quand même perdu trois défenseurs de premier plan qui n'ont pas remplacé. Là. Donc, pour eux, là, c'est là où le bas blesse. C'est sûr que bon, là, il n'est pas heureux, tout ça, s'ils réussissent à faire une transaction, ce sera pour aller chercher du renfort à la défense, ça, c'est sûr et certain. Mais moi, je pense que c'est une équipe qui manque de profondeur à cette position-là. Ottawa, c'est une équipe qui n'a rien à perdre, avec plein de jeunes, donc ça va être les troubles faits dans la division, je pense.
Bien d'accord.
Oui, je pense qu'ils vont mélanger les cartes. Souvent, le Canadien a eu de la misère, d'ailleurs, à certains moments,
contre eux,
au fil des ans, contre Ottawa.
Effectivement. Ensuite, ben, tu sais, pour les autres formations, moi, je pense que Vancouver, c'est une équipe très respectable. Edmonton, j'aime pas beaucoup leur situation devant le filet. Je trouve que c'est un peu problématique. Clefbaum, il commence pas l'année. À défense, ça reste quand même une équipe qui est pas à la hauteur de ce qu'ils ont en avant. C'est comme une équipe qui a un déséquilibre.
Je t'écoute, Danny, puis Philippe, j'ai envie de vous dire, pour me commettre, que honnêtement, là, puis pas pour être chauvin, mais à part le fait que je suis obligé de respecter le star power des Leafs de Toronto, là, sur papier, j'ai de la misère à voir le Canadien plus bas que deuxième. T'sais, je ne sais pas comment ça va se dérouler dans la saison. Puis Edmonton devrait me faire mentir. Encore une fois, je parle de pouvoir des joueurs vedettes, Draisaitl et McDavid. Philippe, je ne sais pas comment tu vois ça, mais effectivement, j'ai l'impression que l'équipe la plus équilibrée, à moins que la ligne de centre trébuche, j'ai l'impression que le Canadien est peut-être même plus équilibré que les Leafs, même s'ils ont moins de punch.
On verra. Moi, j'ai des réserves là-dessus, Mario, mais cela dit, je comprends très bien que tu puisses penser comme ça. Mais je trouve encore une fois qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs chez le Canadien, que l'unité n'est pas faite encore dans ce groupe-là. Puis je trouve qu'il y a des... moi, j'ai encore des inquiétudes. Là. Josh Anderson, là, les Blue Jackets l'ont laissé aller. Oui, je comprends, il a été blessé et tout, mais est-ce qu'il va être le superstar qu'on annonce? Parce que le contrat qu'on lui a donné, là, c'est un contrat de superstar. Je sais pas. Peut-être pas non plus. Jonathan Drouin, tu sais, tout le monde dit, j'écoutais tantôt Marc Bergevin, tu sais, dire, ah, tu sais, il a une bonne attitude, puis tout ça, puis il a pris de la maturité, puis Martin McGuire, avec qui je jasais plus tôt aujourd'hui, disait que, tu sais, il vole sur la patinoire. Ouais, bravo! Mais encore une fois, il va falloir qu'il le démontre sur la patinoire. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de questions sur le niveau de performance de certains joueurs du Canadien. Peut-être qu'ils vont tous répondre présent, puis tous connaître des grosses saisons, auquel cas, oui, peut-être que le Canadien a la deuxième meilleure équipe, mais ça fait. Il va falloir que ce soit oui à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. On va voir que le scénario optimal se produise dans beaucoup de cas. Est-ce que c'est logique de penser que dans les 7-8 grandes questions autour de l'équipe, est-ce que la ligne de centre va tenir le coup? Est-ce que Jake Allen va être un bon quatrième joueur de centre? Est-ce que Josh Anderson va connaître une grosse saison? Est-ce que Toffoli va bien s'adapter? Est-ce que Edmondson va être assez rapide? Est-ce que Jake Allen va faire la job? Est-ce que, il y a un paquet de ces réponses-là, ça va être oui, mais est-ce que ça va être oui à 100%? Ça, je suis pas sûr.
Écoute, c'est pas mal intéressant vos arguments, mais il y a une chose dont je suis pas mal sûr à 100%, les gars. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de montagnes russes pour plusieurs équipes de la division canadienne, parce qu'il n'y a pas d'équipe parfaite dans cette division-là. Mais je pense que ça va être une saison emballante, excitante, peut-être une des plus excitantes des dernières années, parce qu'on va se concentrer. C'est sûr qu'on va continuer de regarder ce qui se passe au sud de la frontière, parce qu'on va continuer de vouloir voir Crosby puis d'autres excellents joueurs de d'autres équipes. Mais j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de match plat, t'sais, à cause de l'intensité qui règne dans chaque marché. Et peut-être une pensée pour les spectateurs. Est-ce que le Canadien sera l'équipe la plus pénalisée de ne pas jouer devant des spectateurs autant à l'étranger qu'à Montréal? Parce que c'est l'équipe qui va chercher des applaudissements dans tous les arénas du Canada.
Oui, tout à fait. Possible.
C'est un très bon point, mais en même temps, c'est une équipe qui jouait avec une nervosité extrême. Dans le fond, c'est une équipe qui n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre au cours des dernières années. C'est pas une équipe qui était très performante offensivement, donc pas beaucoup de marge de manœuvre, beaucoup de pression sur le gardien. Là, ça va être une dynamique différente, parce que l'avantage numérique du Canadien va être meilleur cette année, c'est sûr. Il y a plus de compétition à l'interne, c'est sûr, donc plus d'options pour les entraîneurs, et deux sur la glace, celui qui a la rondelle, il y a plusieurs joueurs à qui il peut la passer. Et puis moi j'ai confiance que le Canadien va se retrouver parmi les meilleures équipes, parce que tout ce que Philippe a dit, c'est vrai, mais c'est vrai pour tout le monde. T'sais, je veux dire, c'est vrai, oui, pour tout le monde. Il y a comme, t'sais, moi, ce que j'aime du Canadien, c'est sa profondeur. T'sais, ils ont vraiment quatre trios, ils ont vraiment six défenseurs, ils ont vraiment deux gardiens. Donc,
puis on est guéri, Danny.
Oui.
On est guéri. On ne souffrira plus d'anxiété offensive.
Offensive, voilà.
Hey, c'est quelque chose. C'est en pleine pandémie, guérir d'anxiété offensive, Danny, je t'ai dit que...
Écoute, c'est un mot que je trouvais qui allait tellement bien à certains joueurs. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'utiliser.
C'est sûr. En tout cas, j'espère, hein, Philippe, on espère que Danny n'aura pas besoin de le ressortir trop tôt dans l'année.
Ben oui. Non, mais tu sais, blague à part, Mario, Danny, je pense que là-dessus... L'idée d'une division canadienne, moi, je trouve ça emballant. Je trouve ça vraiment le fun de voir les équipes canadiennes s'affronter. Je trouve ça le fun de voir Connor McDavid plus souvent, de voir Draisaitl plus souvent, de voir Peterson à Vancouver plus souvent, de voir la jeune équipe des Sénateurs. Remarque, on les voyait déjà, puis ils sont dans la même division. Mais je trouve ça excitant. Ça va briser avec le modèle traditionnel. Puis ça va être le fun de regarder un match, par exemple, entre Calgary et Edmonton et savoir que ça a une incidence sur le résultat du Canadien.
Ça va être pas coucher tard.
Oui. On aime ça, puis on est en manque.
Pour rester dans le thème, il y en a qui suggèrent un reflux offensif cette année. Alors, Danny et Philippe, un gros merci d'avoir participé à l'exercice pour repartir la machine. On va retomber dedans, puis on a hâte d'avoir de la matière. On n'a même pas de match pré-saison sur lesquels on peut, insister, ou des scènes de jeu sur lesquelles on peut capitaliser. On va attendre à mercredi, on va tout découvrir ça en même temps.
Et savez-vous ce qui s'est passé pendant qu'on jasait?
Quoi donc?
Donald Trump voulait donner la médaille présidentielle de la liberté à Bill Belichick dans la dernière semaine de son mandat, et Bill Belichick vient d'annoncer qu'il refuse cette médaille-là.
Ben, honnêtement, c'est ce que je souhaitais de sa part, mais je suis content que tu nous l'apprennes en
ça vient
live
de se produire.
Des amateurs de sport, parce que je peux pas croire qu'elle allait saper sa carrière extraordinaire à aller recevoir une médaille de quelqu'un qui l'est moins.
Voilà.
Merci.
Bien dit. Tout a été dit.
Quoique c'est extraordinaire, ça aussi, mais ça, c'est une autre façon. On ne fera pas de la sémantique. Merci, Danny. Merci, Philippe.
Salut, Danny. Salut, Mario.
Merci.
Excellente soirée. Dans quelques instants, on va parler de l'extraordinaire carrière de Corey Crawford avec quelqu'un qui a été un témoin de son ascension, qui a été quand même longue avant qu'il devienne le gardien régulier des Blackhawks de Chicago. Stéphane Waite du Canadien de Montréal maintenant.